Dans la vie de toute personne, ou presque, il y a des jours très spéciaux. Celui de notre naissance, par exemple, que nous fêtons tous les ans, du moins dans les pays riches. Le jour de notre mariage, bien que celui-là ait tendance à disparaître. Et puis, il y a les jours de réussite ou de grand malheur. Et enfin, le jour où nous rendons notre dernier souffle et qui figure sur la pierre tombale ou sur l'urne avec les cendres du défunt. Dans les Écritures aussi figurent des jours exceptionnels et l'un d'entre eux s'appelle le jour de l'Éternel. Seulement, il a la particularité de s'étirer sur une très longue période, légèrement supérieure à 1007 années. Je passe sur les détails. Le jour de l'Éternel commence par un temps de jugement particulièrement sévère appelé tribulation et qui dure 7 ans. La deuxième partie a reçu le titre de « Grande tribulation » à cause des châtiments épouvantables que Dieu infligera à l'humanité. Le livre de l'Apocalypse raconte comment tout cela se déroulera. Les croyants échapperont à cette grande détresse qui frappera le monde puisqu'ils seront enlevés dans les airs juste avant le déclenchement de la tribulation. Oui, mais il y a un « mais » et il est de taille. En effet, même ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ seront évalués et il y en a certains qui vont passer un très mauvais quart d'heure, voire plus, encore que dans l'éternité, le temps n'est pas compté. En tout cas, ils vont transpirer à grosses gouttes au point de se croire en pleine tribulation. Je plaisante, à moitié. En effet, l'apôtre Paul écrit « Que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. » Fin de citation. Ce jugement est réservé aux croyants, et ce n'est pas un examen de passage au ciel. Son but n'est pas de déterminer où ils seront pour l'éternité, puisque tous ceux qui auront cherché refuge à la croix du Christ reçoivent la vie éternelle. Cette évaluation sert à déterminer les récompenses et les responsabilités qui seront attribuées aux croyants pendant toute l'éternité. L'apôtre Paul écrit « Nous savons très bien ce que craindre le Seigneur veut dire. C'est pourquoi nous cherchons à convaincre les hommes » et Dieu sait parfaitement ce que nous valons. Le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. » Fin de citation. C'est à croire qu'au ciel, certains vont sentir la fumée. Je plaisante, mais à moitié seulement. Avant que le croyant ne puisse entrer au paradis sur le pas de la porte, le Seigneur devra vider les abcès et redresser ce qui est tordu, parce que lui-même est saint et parfaitement juste, et au ciel, tout est absolument parfait et droit comme un « i », ce qui fait que rien de bancal ou de louche n'est accepté. Tout croyant est appelé, d'une part, à régler les péchés qu'il commet en les confessant à Dieu, et d'autre part, à mener une vie droite et productive pour le Seigneur. S'il n'est pas fidèle, le Seigneur va le rappeler à l'ordre ici-bas sur terre. L'apôtre Paul écrit encore « Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. » Personnellement, je sais que Jésus va me représenter devant Dieu et qu'il a porté mes péchés sur la croix, mais je ne suis pas pour autant pressé de me retrouver devant lui pendant qu'il examine mon cas. Et ce n'est pas parce que j'écris un commentaire sur les textes sacrés que je vais recevoir les félicitations du jury, car je n'ai pas de mérite. Je fais seulement ce que Dieu me demande et avec les ressources qu'il m'a données. Si vous me connaissiez comme je me connais, peut-être que vous ne voudriez plus m'écouter. Tout ça pour dire que tôt ou tard, et d'une façon ou d'une autre, personne n'échappera à une confrontation directe avec son Créateur, et alors, malheur à celui qui n'aura pas choisi Jésus comme son Sauveur, car il devra répondre lui-même de ses péchés. Je continue à lire dans le chapitre 5 du livre d'Amos. « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et tombe sur un ours, ou qui, quand il entre chez lui, appuie la main au mur et un serpent le mord. » Verset 19. C'est ce qu'on appelle tomber de Charybde en Scylla. Jean de La Fontaine a utilisé cette expression dans la fable « La vieille et les deux servantes », mais elle est employée depuis le XIVe siècle et remonte à l'Antiquité. À l'origine, Charybde et Scylla étaient deux dangers du détroit de Messine entre l'Italie et la Sicile, le premier étant un tourbillon, le second un écueil. Les marins qui cherchaient à éviter le premier allaient s'écraser sur le second. C'est un peu ce qui arrivera aux Israélites du Nord lorsque les Assyriens envahiront leur pays. Ils feront la mère expérience d'un homme qui s'enfuit à toutes jambes devant un lion pour se retrouver face à un ours qui lui barre le chemin. Il est à bout de souffle et la suite est digne d'un film d'horreur. Pourtant, par un effort surhumain, il réussit à se réfugier dans sa maison. Il n'en peut plus, il est hors d'haleine, alors il essaye de reprendre ses esprits en s'appuyant contre le mur. Mais le mauvais sort s'acharne sur lui. Et cette fois-ci, pas d'échappatoire. Il est mordu par un serpent venimeux. Quand les armées assyriennes déferleront sur Israël, ceux qui auront cru aux paroles du prophète Amos et qui auront pu s'enfuir à temps dans le royaume frère du Sud auront la vie sauve et conserveront la liberté. Les autres seront pris dans les filets de l'ennemi. Mais ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, car ils avaient été avertis d'avance. Dans le domaine spirituel, la négligence ou la fausse sécurité se paye au prix fort. C'était vrai en Israël au temps d'Amos, et ça l'est également aujourd'hui en notre monde. En effet, en ce qui concerne Jésus-Christ, la plupart des gens pensent que c'était un brave homme sans plus et ne ressentent pas le besoin de chercher refuge auprès de lui. Mais le jour où l'Éternel leur demandera des comptes, il sera trop tard et ils ne pourront pas échapper au jugement. Je continue le texte. Soyez-en sûrs, le jour de l'Éternel sera jour de ténèbres et non pas de lumière. Oui, ce sera un jour d'obscurité profonde, sans aucune clarté. Verset 20. Amos répète ce qu'il a déjà dit concernant ce jour de jugement. Pourtant, les prophètes de l'Ancien Testament parlent également d'un autre jour qui ne s'appelle pas le jour de l'Éternel, mais en ce jour-là. Il s'agit de l'époque messianique quand un petit reste, rescapé du peuple élu, reviendra définitivement dans son pays pour y rester et y vivre en paix. Ces Israélites auront véritablement foi en l'Éternel et en Jésus-Christ, qu'ils reconnaîtront comme leur Messie, et ils seront aussi sous la bénédiction de Dieu comme ils ne l'ont jamais été. En ce jour se réalisera toutes les promesses que l'Éternel a faites à son peuple et à leur ancêtre Abraham. Je continue le texte. « Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. » Versets 21 et 22. L'Éternel est outré par la conduite de son peuple, ce qu'il exprime avec un vocabulaire particulièrement musclé. Les Israélites du Nord, et en particulier les grands du royaume, étaient de vrais flibustiers, des bandits de grand chemin, des malfaiteurs, et en plus ils pratiquaient une adoration contrefaite de l'Éternel, puisqu'ils lui avaient donné l'apparence d'un veau en papier mâché ou en bois plaqué or. Et c'est sans compter les idoles qui se trouvaient dans le pays. Si Amos passe sous silence les fautes religieuses, c'est parce qu'il se préoccupait essentiellement des maux d'ordre social. Cela dit, pour se donner bonne conscience, Les Israélites du Nord maintenaient des rites et certaines offrandes prévues par la loi de Moïse, croyant ainsi satisfaire l'Éternel. Ils respectaient également les trois solennités annuelles auxquelles tous les hommes valides devaient obligatoirement assister et qui sont la Pâque, Pentecôte et la fête des cabanes. Mais que ce soit l'offrande des sacrifices ou la célébration de fêtes religieuses, elles avaient lieu dans leur sanctuaire sur le territoire du royaume des 10 tribus, alors que selon la loi, les Israélites du Nord auraient dû se rendre au temple de Jérusalem. Par leur hypocrisie flagrante, les Israélites se moquaient ouvertement de Dieu. Aussi exécrable que soit une telle conduite, elle n'était cependant pas nouvelle. En effet, un peu moins de 3 siècles plus tôt, Saül, le premier roi d'Israël, était têtu comme une mule et n'en faisait qu'à sa tête, mais il offrait quand même des sacrifices. Alors le juge Samuel lui a dit « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Quelques années après le passage d'Amos en Israël Nord, le prophète Ésaïe le copiera en quelque sorte puisqu'il adressera les mêmes reproches que lui, mais à Juda, le royaume du Sud. Je cite Ésaïe. « Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées. Je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. » Fin de citation. Mais ces avertissements restèrent lettre morte. Alors, 150 ans plus tard environ, c'est au tour du prophète Jérémie de dire aux Israélites du Sud de la part de l'Éternel: « Qu'ai-je à faire de l'encens importé de Saba et du roseau aromatique venant d'un pays éloigné? Je n'aime pas vos holocaustes et je n'apprécie pas vos sacrifices. » Je continue maintenant le texte d'Amos. « Éloigne de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font tes harpes. » Verset 23. Jusqu'à présent, Amos a menacé la nation d'Israël Nord. Maintenant, il s'adresse aux individus en tant que particuliers. Les hymnes et les psaumes qu'on chantait pour louer l'Éternel n'étaient pour lui qu'un tintamarre du bruit qui le fatiguait. Dieu en avait plus cassé de ses formes extérieures de culte alors que le cœur n'y était pas. Je continue. Mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent puissant. Verset 24. Les mots « droit » et « justice » prêtent à confusion. Le droit désigne une justice intègre et des jugements justes dans le cadre des tribunaux, tandis que la justice est la qualité d'une personne dont le comportement est juste et droit selon la loi de Moïse. Dans un pays où la chaleur est souvent torride et où le vent du désert dessèche toute végétation, rien n'est aussi agréable qu'une source d'eau fraîche ou un torrent qui débite une eau abondante. Voilà combien serait rafraîchissante pour l'Éternel l'attitude des Israélites qui pratiqueraient ce qui est juste et droit à ses yeux. Je continue. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël? Verset 25. La question s'adresse aux ancêtres du peuple qui ne sont évidemment plus de ce monde, mais Amos établit un lien entre eux et les Israélites du 8e siècle auxquels il s'adresse directement. Et la réponse à la question qu'il leur pose est un non franc et massif. Les Hébreux n'ont pas respecté les préceptes de la loi pendant les 40 ans qu'ils ont passés à tourner en rond dans le désert. Les pérégrinations du peuple choisi furent un temps de châtiment et de rejet par Dieu parce que la génération qui était sortie d'Égypte avaient refusé de prendre possession de la terre promise. Ils avaient même voulu se débarrasser de Moïse, leur chef, d'Aaron, son frère et premier grand prêtre, ainsi que de Caleb et de Josué, les deux espions parmi les 12 qui étaient prêts à faire confiance à l'Éternel et à foncer pour prendre d'assaut le pays de Canaan. Mais le reste du peuple voulait retourner en Égypte qu'ils avaient pourtant quitté en catastrophe. Pendant ces 40 ans dans le désert, les Israélites ne pratiquaient plus la circoncision qui était pourtant le signe de l'Alliance, ni les sacrifices, ni les fêtes. Ils rendaient bien un culte à l'Éternel, mais en même temps ils adoraient diverses idoles, ce qui apparaît dans plusieurs textes. Par exemple, parmi les ordonnances données à Moïse, l'Éternel lui a dit « Le peuple d'Israël n'offrira plus de sacrifices aux idoles à forme de bouc avec lesquels on se prostitue. C'est une loi en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. » Et plus tard, Josué leur a carrément demandé de se débarrasser des idoles qu'ils avaient dans leur pactage. Je lis ce passage. Josué reprit « Vous êtes vous-même témoin contre vous que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » « Dans ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Fin de citation. Cette idolâtrie invétérée du peuple d'Israël fut dénoncée par le diacre Étienne dans son fameux discours qui lui valut d'être exécuté par les chefs religieux juifs. Citant un passage du livre d'Amos comme preuve à l'appui, Étienne montre que depuis leur sortie d'Égypte et pendant toute leur histoire, les Israélites ont adoré des faux dieux. Parlant des Hébreux dans le désert, il a dit « Ils façonnèrent alors un veau, ils offrirent un sacrifice à cette idole, et ils célébrèrent de joyeuses fêtes en l'honneur de ce qu'ils avaient fabriqué de leurs mains. Dieu se détourna d'eux et les abandonna à l'idolâtrie et au culte des astres du ciel. C'est bien ce qui est écrit dans le livre des prophètes, au peuple d'Israël, quand vous avez offert des victimes et des sacrifices pendant les 40 ans de votre séjour au désert. Était-ce à moi que vous les avez apportés? Non, vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre dieu Rompha, idole que vous avez fabriquée pour vous prosterner devant elle. C'est pourquoi je vous déporterai plus loin que Babylone. » En accusant les Israélites du Nord de ne pas avoir observé la loi, Amos établit un rapprochement entre la conduite des ancêtres de la nation dans le désert et celle des Israélites du Nord au 8e siècle. Tout comme l'Éternel a sévèrement puni les premiers, il châtiera les seconds parce que leur culpabilité est identique. Je continue le texte d'Amos. « Mais vous avez porté le petit temple de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile que vous adorez comme Dieu et dont vous avez fabriqué une représentation. » Verset 26. Le texte hébreu est difficile à traduire parce que les expressions « petit temple »,« votre roi » et « piédestal » sont aussi des noms propres de fausses divinités qui sont associées à la planète Saturne. De plus, les mots traduits par « petit temple » et « piédestal » n'apparaissent nulle part ailleurs dans les Écritures. Cela dit, le parallélisme du verset oblige à choisir comme traduction « petit temple » et « piédestal » plutôt que des noms d'idoles. Quand le diacre Étienne cite ce verset, il utilise l'ancienne version grecque rédigée en Égypte par 70 sages et ceux-ci avaient choisi de traduire le mot « piédestal » par « Rompha », qui est l'équivalent égyptien de l'une des deux idoles assyrienne. L'autre, petit temple, ils l'ont traduit par tente, ce qui est la même chose. Par contre, le mot traduit par votre roi, les 70 sages l'ont rendu par Moloch, le nom d'une idole cananéenne. J'avais bien dit que c'était compliqué. Étienne a simplement cité la version grecque, ce qui lui suffisait amplement pour établir le caractère idolâtre d'Israël. La tente ou le petit temple auquel se réfère Amos, c'était une petite chapelle ornée de fleurs dans laquelle était installée une idole qu'on promenait dans les rues lors de processions religieuses. Amos reproche donc aux Israélites d'avoir choisi un faux dieu représenté par un astre comme roi à la place de l'Éternel. Dans la version grecque, cette idole est la planète Saturne et dans le texte hébreu traditionnel, il s'agit d'une étoile, probablement le soleil. Que ce soit l'une ou l'autre, ça ne fait aucune différence. C'est un astre transformé en idole. Je finis le chapitre 5. Voilà pourquoi je vous déporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, celui qui a pour nom Dieu des armées célestes. Verset 27. L'expression au-delà de Damas indique l'empire assyrien. Pour les Israélites, l'horreur de l'exil n'était pas seulement la honte de la défaite et l'anéantissement de la nation, mais surtout le déracinement de la terre promise et l'excommunication loin de la présence de Dieu, en somme, l'enfer.